Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, mais aussi Hélène Lefrançois, Bertie Bourdon, Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Souad Boukorsa. Deuxième temps de notre série consacrée à l'Ukraine. À l'approche du prochain sommet sur la résolution du conflit dans le Donbass prévu à Paris le 9 décembre prochain. Après avoir évoqué hier les évolutions politiques du pays depuis la révolution orange, avant de nous intéresser demain à ses frontières disputées et puis jeudi à son identité divisée, tentons aujourd'hui d'éclairer la complexe question du gaz qui lie Kiev à Moscou pour le meilleur et pour le pire. Économie ukrainienne, le gaz et après, c'est notre question ce matin dans Culture Monde.
Je dois dire que malheureusement, je suis déçu du résultat des négociations aujourd'hui. Et je le dis très franchement. Et aussi, je dois souligner l'importance d'arriver à signer le plus rapidement possible un accord entre l'Ukraine et la Russie sur le transit du gaz russe.
Nous livrerons à la frontière russo-ukrainienne la quantité exacte de gaz qui nous sera demandée par nos partenaires européens. À ce jour, la demande de transit de gaz via l'Ukraine constitue un peu plus de 185 millions de mètres cubes.
Aujourd'hui, la dette atteint 4,5 milliards de dollars. Si elle est réglée, nous pourrons revenir aux consultations, y compris sur les livraisons futures, le régime de prépaiement ainsi qu'une baisse du tarif.
Maros Sefcovic, vice-président de la Commission européenne. On entendait également Alexei Miller, le PDG de Gazprom, mais aussi Alexander Novak, ministre de l'énergie russe, était en juin 2019. Alors que le contrat de 10 ans organisant le transit du gaz russe vers l'Union européenne en passant par l'Ukraine est sur le point d'expirer, les négociations en vue d'un nouvel accord entre les deux pays, par ailleurs toujours en guerre, sont au point mort. Un blocage délétère pour Kiev, qui tire de l'acheminement gazier 2 à 3 milliards de dollars par an, une somme importante par rapport à un PIB d'un peu plus de 100 milliards de dollars. Mais la Russie, de son côté, a tout intérêt à jouer la montre. D'une part, elle pourrait utiliser ce nouveau contrat comme monnaie d'échange lors des pourparlers sur le Donbass, même si l'Ukraine, elle, préférerait séparer les deux dossiers. Et puis de l'autre, elle ne cache pas sa volonté de pouvoir à terme importer son gaz en Europe sans passer par l'Ukraine, comme devraient bientôt lui permettre les gazoducs Turkish Stream et Nord Stream 2, d'ultimes obstacles juridiques à la finalisation de ce dernier ayant été récemment levé. Si une telle perspective est assez inquiétante à court terme pour Kiev, elle pourrait néanmoins constituer une opportunité pour l'avenir, forçant le pays à diversifier une économie dont la dépendance au gaz a beaucoup fait souffrir le pays. Alors dans quelle mesure le blocage des négociations sur le transit du gaz constitue une menace pour l'Ukraine? Comment celle-ci se prépare-t-elle à la concurrence des nouveaux gazoducs russes? De quelle latitude dispose-t-elle aussi pour réformer son économie aujourd'hui contrainte par la guerre? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Marc-Antoine Heil-Masséga, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur du Centre Énergie et Climat de l'IFRI. Vous êtes un spécialiste des échanges gaziers entre la Russie, l'Ukraine et l'Union européenne. Avec nous depuis Bruxelles, Boris Najman, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes, vous, maître de conférence en économie à l'université Paris-Est-Créteil, mais aujourd'hui à Bruxelles. On va commencer peut-être avec Marc-Antoine Heil-Masséga et ensuite je vous donnerai la parole. Hier, peut-être avez-vous lu, Marc-Antoine Heil-Masséga, cette interview de Volodymyr Zelensky dans Le Monde qui s'achève précisément sur la question du gaz. Et voilà ce qu'il dit, le président ukrainien. Il ne s'agit pas seulement d'une question économique, mais aussi politique. Je veux distinguer ce sujet de celui du Donbass, mais la question pourrait être soulevée lors du sommet. On voit bien qu'il y a ce désir chez le président ukrainien de découpler cette question du gaz et celle des négociations qui vont s'ouvrir là bientôt à Paris. Sauf qu'en même temps, on voit très bien que les enjeux sont complètement liés et qu'on risque de parler de tout cela ensemble. C'est très clair, en tout cas, du côté russe, c'est ce qui semble apparaître.
Alors, c'est vrai que ce ne sont pas uniquement des négociations sur des approvisionnements gaziers européens via l'Ukraine. Il y a là une forte dimension politique, puisque les deux pays sont quasiment en guerre encore, et qu'il y a en réalité tout un tas d'enjeux qui viennent s'agglomérer à cette négociation. Et le président Poutine a pour coutume d'amener les choses dans un paquet beaucoup plus large pour finalement lier différents enjeux les uns avec les autres.
Alors, quand ça l'arrange, parce que quand il est question de la Crimée, il ne veut pas l'évoquer.
Ah oui, absolument.
Donc ça dépend en fait des dossiers.
Mais la Crimée n'est pas un sujet dont le président russe souhaite d'une façon ou d'une autre.
Non mais donc la mise en paquet des sujets, ça dépend de ce qu'il y a dans le paquet.
Absolument, voilà. Absolument. Et alors là, les Russes, dans ce paquet-là, eh bien, incluent non seulement la question de l'avenir du transport de gaz par l'Ukraine, mais incluent aussi les contentieux en arbitrage qui lient Naftogaz et Gazprom, et qui pour l'instant ont été très favorables à Naftogaz, la société ukrainienne, qui a emporté 2,6 milliards de dollars lors d'un jugement l'année dernière. Et il y a encore trois autres contentieux liés à cela qui sont en cours. Les Russes veulent carrément annuler ces arbitrages et refusent de payer pour l'instant. Et les Ukrainiens, en tout cas, eux, considèrent que eh bien, ces sommes leur sont dues.
On reviendra évidemment sur ces différences, sur ces contentieux. Boris Najman, il y a en ce moment des discussions, parce que cette accord arrive à échéance le 31 décembre prochain, donc on est censé trouver un accord d'ici là, il reste quand même assez peu de jours. Comment se présentent les choses, Boris Najman? Est-ce qu'on discute? Est-ce qu'on peut espérer qu'il y aura un nouvel accord avant la fin de l'année, ou faut pas rêver?
C'est difficile, l'accord est compliqué, parce que d'une part les Russes veulent effectivement, comme les Européens, mettre les aspects politiques de la guerre qui a lieu en ce moment, il y a des morts tous les jours, dans le Donbass, et qu'en revanche, comme vous l'avez rappelé, Zelensky, le président ukrainien, souhaite distinguer les choses, d'une part. D'autre part, c'est difficile d'avoir un accord, parce que l'Ukraine n'est pas dans une position de force. Elle est plutôt défavorisée dans la situation actuelle pour avoir un accord, puisque les combats ont repris dans le Donbass, que des votes ont eu lieu pour annexer l'ensemble du Donbass à l'heure actuelle et non pas la ligne de front, et que en fait dans le format Normandie, dans le format avec la France et l'Allemagne, les partenaires à la fois français et allemands dans les négociations semble, en tout cas du point de vue de la France, pencher du côté de Poutine et reprendre un certain nombre de ses arguments. Donc l'accord.
Mais sur la question du nouvel accord, est-ce que vous pouvez nous donner en quelques mots les positions respectives de Kiev, de Moscou et de Bruxelles?
Oui. Alors, je pense que les positions de c'est là où c'est intéressant. Les positions de l'Ukraine se sont alignées ces dernières années sur les positions de Bruxelles, c'est-à-dire avoir un contrat avec des entreprises distinctes qui sont des entreprises qui livrent, délivrent et qui le gaz et qui le transportent, c'est ce que demande Bruxelles, c'est-à-dire qu'il y ait une concurrence, c'est-à-dire que si vous voulez le tuyau soit distingué de ce qu'on y met, que ça soit pas la même entreprise qui le contrôle comme c'est le cas avec Gazprom. L'Ukraine est d'accord sur le territoire ukrainien pour que, par exemple, Gazprom délivre directement aux consommateurs ukrainiens du gaz. Ça, c'est sur le point de vue juridique. Je dirais que les positions ukrainiennes sont que on doit continuer les procédures d'arbitrage, et pour une raison très simple, c'est que elles portent sur le prix. Et comme la Russie a vendu du gaz nettement au-dessus du prix auquel elle les vendait à d'autres partenaires, l'Ukraine n'est pas d'accord et elle a obtenu tout à fait gain de cause et plus de 2 milliards, entre 2 et 3 milliards de compensation. Et puis, il y a un aspect très important, c'est qu'elle a perdu ses infrastructures en Crimée. Et là, je pense qu'il faut directement expliquer les choses aux auditeurs, parce que quand les dernières négociations ont lieu en 2010, la question du prolongement du contrat a été liée à l'ouverture d'une base militaire russe et de l'élargissement de cette base russe à Sébastopol, en Crimée. Donc la Russie s'est engagée à un contrat gazier, et l'Ukraine, de son côté, a justement assuré une base militaire. En fait, la Russie a rompu, non seulement en occupant la Crimée, mais elle a rompu cet accord même, puisque l'Ukraine avait accepté certaines conditions en échange de la base militaire. Donc vous voyez que quand on a déjà négocié les choses il y a 10 ans, la Russie a insisté pour mettre des éléments militaires, qui n'avait rien à voir avec le gaz, dans l'accord de 2010. Donc, c'est important de le rappeler, parce que je pense que dans les négociations qui vont avoir lieu dans les jours qui viennent, nécessairement,
ça va revenir sur la table, bien sûr. Ouais. Marc-Antoine Heil-Mazeka, vous vouliez réagir, et puis j'en profite pour insérer une question, parce que Boris Najman revenait aux négociations de 2009. À l'époque, non seulement les Russes avaient menacé de couper les robinets, mais avaient coupé les robinets. La menace avait été jusqu'à son exécution. Est-ce que là, on est dans un scénario qui est comparable? Est-ce que si au 31 décembre, enfin au 1er janvier l'année prochaine, on n'a pas trouvé de nouveau contrat, est-ce que les Russes pourraient refermer les robinets? Et quelles conséquences pour l'Europe?
Alors,
Marc-Antoine Heil-Mazeka.
Absolument. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu de crise gazière entre les Russes et les Ukrainiens. Et la crise gazière de 2009 était un choc, en réalité, parce qu'elle avait privé un certain nombre de pays européens, en plein hiver, lorsque la demande de gaz est la plus forte, eh bien, d'une partie de leurs approvisionnements en gaz russe. Et cela avait des conséquences économiques et sociales majeures. En particulier, d'ailleurs, en Ukraine. Aujourd'hui, une chose qu'il faut souligner, c'est que l'Ukraine, qui assure le transport d'à peu près 45% du gaz russe vers les marchés de l'Union européenne, eh bien, malgré la guerre dans le Donbass, etc., le transport de gaz s'est poursuivi. Donc, je crois que c'est quand même un fait majeur qui mérite d'être souligné. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que...
Parce que c'était l'intérêt de tout le monde.
C'était l'intérêt de tout le monde, absolument, absolument. Les Russes ont besoin des revenus de leurs exportations de gaz, l'Ukraine perçoit un revenu de transport...
Et l'Europe a besoin du gaz.
Voilà, ils achètent le gaz, comptant, nous sommes le meilleur client de Gazprom. Alors, ce qui se passe désormais, c'est que les Russes ont mis en service le gazoduc Turk Stream au sud, via la mer Noire, que vous évoquiez, qui doit encore être connecté, mais qui est déjà en grande partie posé. Et puis au nord, sont en train de terminer le Nord Stream 2. Et ces deux tubes, à eux seuls, vont réduire très fortement les besoins de passer du gaz russe via l'Ukraine. La question désormais, c'est en réalité, est-ce qu'il faut maintenir la voie ukrainienne? Est-ce qu'on en a encore besoin? Et à quel niveau? Et pour combien de temps? Et c'est là où en réalité, différentes visions s'affrontent et qui sont finalement très politiques.
Quelle est la position russe sur ce sujet?
Alors, la position russe, elle est peu lisible pour l'instant. C'est-à-dire que les Russes ont toujours dit, on aura encore besoin de passer du gaz par l'Ukraine, mais pas à n'importe quelle condition. La position ukrainienne et européenne, c'est de dire, en réalité, la voie ukrainienne reste, doit demeurer une voie de transport significative, et les Ukrainiens ont posé avec les Européens sur la table une offre à 60 milliards de mètres cubes par an pendant plus de 10 ans. Or, actuellement, on est à 85 milliards de mètres cubes par an. Or, les Russes disent, mais vous ignorez totalement la réalité des deux tubes que nous sommes en train de construire, qui est le Nord Stream 2 au nord et le Turk Stream au sud. Donc, si l'on fait un calcul mathématique, il est impossible que l'on continue de passer ces volumes par l'Ukraine, parce qu'on ne construit pas des tubes dans lesquels on investit des dizaines de milliards pour qu'ils soient à moitié vides. Alors, jusqu'alors, en réalité, le problème, c'était que les Russes ne savaient pas exactement si le Nord Stream 2 allait être terminé à la fin de cette année, et s'il allait être mis sous sanction, et quel serait le régime réglementaire qui s'appliquerait au tube. Or, aujourd'hui, au stade actuel, en réalité, il y a beaucoup moins de probabilités qu'il y ait des sanctions américaines et qu'il y ait en réalité des retards très très importants sur la mise en œuvre de ce tube.
Même si tout le monde n'est pas d'accord sur ce point-là, mais on va y revenir. Boris, Marc-Antoine Heil-Mazeka, pardon, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que si la Russie ferme les robinets ukrainiens, est-ce que c'est un problème d'approvisionnement pour l'Union européenne?
Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Nous avons les prix du gaz les plus bas depuis 10 ans sur les marchés européens. Nous avons des stocks de gaz dans les marchés européens qui sont remplis à ras-bord, et d'ailleurs en Ukraine. Et nous avons énormément de gaz naturel liquéfié qui est importé à des niveaux records dans l'Union européenne.
Donc ça ne poserait pas de problème à l'Europe?
Non, ça n'aurait rien à voir.
Et donc la Russie n'a pas intérêt à le faire?
Alors maintenant, il faut discuter. C'est-à-dire que physiquement, il n'y aura pas de problème d'approvisionnement pour la plupart des marchés. Ici et là, il va y avoir des problèmes en fond. On va voir aussi quelles seront les températures cet hiver. Cela joue beaucoup. Mais la situation n'est pas comparable à janvier 2009. Cela dit, si une crise, une interruption du transit de gaz par l'Ukraine, il continuera d'y avoir du transit de gaz russe via le Nord Stream qui existe déjà et via le Yamal Europe à travers la Biélorussie et la Pologne. Mais s'il y a une interruption par l'Ukraine, les approvisionnements physiques seront beaucoup moins touchés que ce qu'on a pu voir il y a 10 ans.
Boris Nagyman, deux questions, parce qu'effectivement, d'ici quelques semaines, il y a plusieurs nouveaux gazoducs qui devraient permettre à la Russie d'approvisionner l'Europe. Il y a le Nord Stream 2 en Baltique et puis les deux Turkish Stream en mer Noire. Alors, il y a la première question qui est celle de savoir jusqu'où ces routes alternatives affaiblissent la position de Kiev. Vous allez nous répondre à cette question, Boris Nagyman. Et puis l'autre, qui est celle en particulier pour Nord Stream 2, parce qu'effectivement, jusqu'ici, le Danemark empêchait la finalisation de ce gazoduc. Et puis, il se trouve qu'il y a très peu de temps, fin octobre, le Danemark a fini par autoriser la construction de ce gazoduc qui relie donc l'Allemagne à la Russie. Donc, il faudra comprendre pourquoi est-ce qu'elle s'y opposait et pourquoi est-ce qu'elle a fini par céder. Mais prenons les choses dans l'ordre, Boris Nagyman, d'abord sur ces alternatives aux tuyaux ukrainiens.
Oui, en fait, c'est quand les alternatives seront en place, c'est-à-dire aller au plus tôt à la mi-2020, mais probablement un peu après, on peut dire que le transit par l'Ukraine ne serait pas au-delà de 30 milliards de mètres cubes. Donc, ça serait divisé pratiquement par 3 le transit actuel, hein, un peu moins. Donc, oui, l'Ukraine est en position très difficile et il est clair que l'Allemagne a, comme disent les Américains, à pousser l'Ukraine sous le bus, c'est-à-dire à planter une sorte de poignard dans le dos, parce qu'elle a mis l'Ukraine dans une situation très difficile, puisqu'elle est dépendante à 2-3 milliards d'euros chaque année, ce qui représente l'équivalent de 2-3% de son PIB, un peu moins, par ses transits, les frais de transit. Donc c'est un gros souci pour l'Ukraine. Une chance aussi très probablement parce que ça va lui permettre, comme vous l'avez dit en introduction, de diversifier en fait et de changer de modèle de développement pour deux raisons. D'abord, ce gaz et cette dépendance au gaz russe alimentait des entreprises qui étaient largement déficitaires, qui étaient dans des situations difficiles, qui ne payaient pas le prix du gaz et qui ne payaient pas les coûts énergétiques. Donc l'Ukraine, dans l'industrie lourde qui lui reste, a besoin d'une transformation et donc une moindre dépendance. Mais un point beaucoup plus important qui se posera aussi pour l'Union européenne, c'est qu'en fait, à travers les contrats gaziers, la Russie a toujours petit à petit remis en cause la souveraineté ukrainienne. Donc, je l'ai dit tout à l'heure pour la base militaire en Crimée, mais pour beaucoup d'autres dossiers, c'est-à-dire que la Russie veut contrôler non seulement le gaz, mais aussi les infrastructures. Et c'est ce qu'elle voudra faire aussi avec Nord Stream 2, très probablement, c'est petit à petit contrôler totalement le gazoduc, c'est-à-dire faire avoir des sous-marins nucléaires qui patrouillent dans les eaux territoriales, avoir... Et donc,
est-ce que l'Union européenne est d'accord avec ça? Parce que vous le disiez tout à l'heure avec cette image du bus, l'Allemagne a poussé l'Ukraine sous le bus. On comprend pourquoi. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est dans l'intérêt économique de l'Allemagne. Ça lui permet d'avoir des prix du gaz qui sont inférieurs. Mais s'agissant de cette question véritablement géostratégique, est-ce que les Européens, et l'Allemagne en particulier, est prête à laisser la Russie maîtriser l'ensemble, effectivement, de ce couloir alternatif du gaz, sachant qu'il faut peut-être préciser pour les auditeurs que entre Nord Stream 1 et Nord Stream 2, il y a quand même quelque chose qui a changé dans la réglementation européenne, c'est que désormais, à Bruxelles, on interdit à un même fournisseur d'utiliser plus de la moitié des capacités des nouvelles infrastructures gazières. Donc, a priori, en tout cas en théorie, Nord Stream 2, il va y avoir d'autres choses qui vont passer à l'intérieur, pas seulement du gaz russe.
Oui, mais là c'est très compliqué vu la non-transparence des contrats et vu le manque de réglementation qu'on a et d'agences indépendantes des pouvoirs politiques de réglementation des contrats gaziers. On a absolument besoin, et l'Ukraine aussi, mais nous aussi, d'une transparence sur les contrats et d'une réglementation parce que ce sont des monopoles. Chaque fois qu'on a affaire à des monopoles naturels, quand on a de toute façon une infrastructure, il y a quasiment du monopole, on doit absolument avoir des instituts de réglementation, de gestion du fonctionnement des monopoles qui soient le plus indépendants possible, de manière à ce que ça se passe pas au détriment des consommateurs et c'est ça qui est en jeu ici. Mais derrière ce que j'ai dit, que je répète, c'est très problématique la question géopolitique qui est essentielle la question géopolitique, c'est-à-dire de l'indépendance vraiment de, comme on l'a conçu dans la période de Gaulle en France, hein, l'indépendance énergétique était liée à une indépendance aussi, une souveraineté du pays. Hein. Mmh. Ça se repose aujourd'hui pour les pays de l'Union européenne, pas tant pour la France, hein, puisqu'elle est moins indépendante, mais pour beaucoup de pays qui sont totalement dépendants, comme la Slovaquie ou comme les pays du Visegrad, du gaz russe, ça va se reposer à partir du moment où ce gaz circule de cette manière-là et sous le risque qu'il soit contrôlé essentiellement par Gazprom.
Marc-Antoine Aylmazega, je reviens sur cette question du changement de réglementation en Europe. Je rappelle, donc entre Nord Stream 1 et Nord Stream 2, il y a cette réglementation européenne qui change, avec cette interdiction désormais à un même fournisseur d'utiliser plus de la moitié des capacités des nouvelles infrastructures gazières. Alors, on imagine très bien ce qu'a dû être la réaction des Russes lorsqu'ils ont vu ce changement de réglementation. Ils ont investi énormément d'argent pour mettre en place ce nouveau gazoduc. Je crois que ça doit être aux alentours de 10 milliards de dollars ou quelque chose comme ça, 9 ou 10 milliards de dollars. Donc, on imagine que quand on leur explique que cet investissement, finalement, à l'arrivée, ils vont pouvoir utiliser seulement la moitié de l'infrastructure, ils n'ont pas dû être très très contents. Mais je voudrais comprendre la motivation du côté européen. Pourquoi est-ce qu'on a fait, on a pris ce changement de direction ?
Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement un problème fondamental. C'est celui que on n'a jamais eu autant besoin en réalité du gaz russe sur les marchés européens. Mais de facto, Gazprom, qui est le fournisseur monopolistique par gazoduc côté russe, eh bien occupe des positions dominantes sur beaucoup de marchés. En particulier le premier d'entre eux, l'Allemagne. C'est-à-dire que la part de marché de Gazprom est régulièrement au-delà de 50%. Et donc, il y a eu au sein de l'Union européenne une division très forte entre les pays qui étaient pour Nord Stream 2, comme l'Allemagne, parce que l'Allemagne, c'est le premier marché gazier européen, c'est le premier client de la Russie, et l'industrie allemande, la pétrochimie, etc., est très dépendante d'un gaz bon marché, et donc les Allemands considèrent que le Nord Stream 2, c'est une garantie de sécurité d'approvisionnement et de compétitivité économique. Et puis, il y a des pays, et ça vient d'être rappelé, comme la Pologne, etc., qui, eux, cherchent à réduire l'emprise du gaz russe, qui cherchent à diversifier leurs approvisionnements, soit par gazoduc, soit via du gaz naturel liquéfié qui est amené par bateau, et qui disent, au fond, à la Commission européenne, il n'est pas acceptable que l'on autorise la construction d'une telle infrastructure qui vient, en réalité, renforcer, sur le long terme, la part du gaz russe. Alors que nous voulons diversifier. Alors ce que ne dit pas la Pologne, c'est que elle ne dit pas parce que en réalité nous sommes en transition énergétique accélérée et nous voulons à terme sortir du gaz. Non, elle ne dit pas ça. C'est une nuance que d'autres pourraient défendre différemment, mais voilà. Et donc l'Union européenne a décidé qu'on allait mettre en place un amendement à cette directive gazière aux règles du gaz.
Donc c'est un compromis en fait.
Alors c'était un compromis qui a été atteint au début de cette année et effectivement, vous l'avez dit, ce compromis change le cadre réglementaire qui s'applique à ce Nord Stream 2. Alors la société Nord Stream 2, dont Gazprom est l'actionnaire à 100%, a porté plainte à la Cour européenne de justice en dénonçant cet amendement, en disant que c'est une discrimination, que c'est à son encontre et finalement que...
Elle peut avoir gain de cause ?
Alors, elle peut tout à fait avoir gain de cause. Alors, il va y avoir tout un tas de procédures, etc. On va regarder comment est-ce que cet amendement est dépassé, est-ce que les différents acteurs du dossier ont bien été... Est-ce que leurs opinions ont bien été prises en compte ? Est-ce que les durées ont bien été, respectées ? Mais bien sûr qu'elle peut gagner.
Marc-Antoine Aylmazega... Peut-être peut-on parler aussi des États-Unis. On n'en a pas encore parlé. Boris Nagyman, pardon. Marc-Antoine Aylmazega évoquait à l'instant la question de la possibilité de faire venir du gaz liquide. Ce qu'il ne dit pas, c'est que ce gaz liquide, en réalité, il est a priori américain. Je voudrais savoir justement comment jouent là les États-Unis, Boris Nagyman, dans cette guerre à trois avec l'Ukraine, la Russie et la Russie. On parlait tout à l'heure des réticences danoises. D'aucuns disent que ces réticences, elles étaient liées à des pressions exercées depuis les États-Unis. Alors, qu'en est-il réellement et quelle est la réalité de cette pression américaine et finalement, pourquoi faire ? C'est-à-dire que l'enjeu, on entend bien du côté de Washington, c'est de vendre du gaz liquéfié à l'Europe, jusqu'où elle peut espérer effectivement avoir gain de cause et donc faire reculer la position très avantageuse du gaz russe en Europe. Boris Nagyman.
Je pense pas que le gaz liquéfié puisse totalement remplacer, ça c'est certain. Ce qui est en jeu pour les Ukrainiens, j'ai pas eu le temps de l'expliciter tout à l'heure, c'est certainement plutôt le changement de politique qui peut intervenir en novembre aux États-Unis. Et donc, il y a une volonté de gagner du temps pour pouvoir avoir une négociation avec une influence américaine plus importante dans le cadre de ces accords. Mais je pense pas que le gaz liquéfié ait pu remplacer. En revanche, quand on regarde les données de façon plus proche, on voit que la Norvège exporte beaucoup maintenant. Hein. Et donc, quand on regarde en termes de valeur, hein, surtout après 2011, on voit que une possibilité, c'est par la Norvège. Une autre, ça serait d'essayer d'avoir plus de gaz kazakh qui rentre dans les tubes. Donc, il y a d'autres options que le gaz russe dans la diversification.
Il y a le gaz algérien aussi.
Le gaz algérien pour la France, effectivement, mais là, c'est plus en termes de localisation. Et puis, je pense que le rôle de la Commission dans ces négociations, c'est de se projeter dans une transition énergétique, ce que va faire la nouvelle présidente de la Commission. J'étais hier à la Commission européenne avec mes étudiants, on en parlait justement. La question, c'est vraiment de commencer une transition rapide, et de plus employer d'ailleurs le terme de transition, qui était l'idée d'aller doucement. On n'a plus le temps de changer de modèle énergétique. On va aller vers beaucoup plus d'énergies renouvelables, et la Commission veut accélérer là-dessus. Et donc, elle va proposer probablement des investissements massifs pour sortir des hydrocarbures, généralement, dans les 15 ans à venir. Donc, on va dans deux sens différents. On va dans une sorte de négociation de court terme où on veut absolument rester sur un modèle ancien, hein, du 20e siècle. On consommait essentiellement des hydrocarbures. Et on sait qu'au 21e siècle, on devra faire différemment. Et en même temps, on construit des infrastructures très lourdes et très coûteuses qui, peut-être, dans 20 ans, vont apparaître comme étant totalement démesurées par rapport aux besoins. Parce que si on arrive véritablement à faire la transition, qu'on trouve d'autres moyens et qu'on développe différemment en ayant de gros investissements, qui sont coûteux, c'est vrai, mais qui seront rentables puisqu'on importera moins d'hydrocarbures de pays qui, en plus, souffrent même de phénomènes de gouvernance. La Russie souffre, en fait, d'exporter essentiellement du gaz et du pétrole, c'est-à-dire ça détruit complètement sa gouvernance interne, ça renforce en fait l'autocratie. Ça doit être le but de l'Union européenne dans le futur, de se rendre indépendant de ses importations.
Alors ça c'est pour ce qui est de l'Union européenne et de sa politique énergétique qu'on peut effectivement interroger. Revenons peut-être sur la question essentielle qui nous intéresse cette semaine, qui est celle de l'Ukraine. Marc-Antoine Almaseka, il y a une autre affaire ukrainienne qu'on évoque assez peu. Alors il y a celle évidemment qu'on connaît qui a abouti à cette procédure d'impeachment du côté des États-Unis, mais il y en a une autre qui touche Rick Perry, qui est l'ancien secrétaire d'État à l'énergie qui a été limogé en octobre dernier, qui est soupçonné visiblement d'avoir utilisé sa fonction pour obtenir un contrat particulièrement avantageux à l'un de ses proches et par ailleurs généreux donateur du Parti républicain. En l'occurrence, c'est Michael Blazer. Qu'est-ce qu'on sait de ces soupçons et surtout, qu'est-ce que ça nous dit de la présence américaine dans le domaine énergétique de la région, Marc-Antoine Almaseka? Parce que c'est un acteur dont on parle jamais, enfin assez peu rarement. Or, il est bien là.
Il était jusqu'à très récemment très fortement présent.
Rapprochez-vous du micro.
Oui, et le secrétaire Perry à l'énergie était l'un des avocats de l'expansion des exportations de GNL en Europe et en particulier gaz en liquéfié. Europe centrale. Voilà, de gaz naturel liquéfié. Et on l'a vu très régulièrement en Pologne, en Ukraine, pour essayer de renforcer l'intégration de ces marchés et pour pouvoir accueillir du gaz naturel liquéfié, mais aussi en Bulgarie, mais aussi en Grèce, mais aussi en Croatie, et pour réduire l'emprise du gaz russe dans ces pays. Maintenant, en ce qui concerne l'affaire que vous évoquez, j'ai lu en détail le témoignage de Fiona Hill, qui était la conseillère à la sécurité nationale pour la Russie au Congrès. Elle n'évoque pas ce cas-là. Elle maîtrise en règle générale bien ces dossiers, mais elle ne l'a pas évoqué. Je n'ai pas davantage d'informations, mais il est clair que dans cette administration Trump, ce type de pratique semble être monnaie courante. Maintenant, je crois que il y a un enjeu important qu'il faut avoir à l'esprit, et pour rebondir juste sur ce qui vient de dire sur cette transition énergétique en Europe qui va s'accélérer et le rôle du gaz. En réalité, plus l'on va mettre d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique en Europe, plus nous allons avoir besoin de réseaux et de flexibilité. Et cette flexibilité pour la production d'électricité va dans un premier temps venir du gaz, surtout s'il n'est pas cher. Et on l'a vu cette année en Allemagne où il y a eu beaucoup plus de consommation de gaz pour la production d'électricité par rapport au charbon qui, lui, a été poussé en partie dehors parce que, finalement, le gaz apporte cette flexibilité. Donc l'enjeu pour l'avenir du transit par l'Ukraine, c'est que l'Ukraine va être une voie qui va permettre d'apporter cette flexibilité aux approvisionnements gaziers russes, surtout en hiver. Mmh. C'est une voie qui va permettre de continuer d'approvisionner des marchés essentiels comme l'Italie parce que passer par le Nord Stream 2 pour approvisionner l'Italie, eh bien, en réalité, c'est beaucoup plus long. Et puis, c'est une voie importante parce qu'il y a de fortes capacités de stockage en Ukraine qui sont très utiles pour justement juguler ces capacités. Alors, l'enjeu dans ces négociations, c'est finalement de conclure un accord, probablement autour d'une trentaine de milliards de mètres cubes par an pendant une quinzaine d'années. Et cet accord permettrait aussi de moderniser un tube, un tronçon de ce système de gazoduc. Et en réalité, malgré cette transition, à terme, en 2050, il n'y aura pratiquement plus de gaz naturel dans le mix énergétique européen. Mais il faut réfléchir en termes de séquençage. Et dans un premier temps, pour accompagner, pour soutenir cette transition, eh bien, en réalité, on aura besoin de gaz.
J'entends parfaitement ce que vous nous expliquez sur l'avenir de la politique énergétique européenne. Mais moi, je reviens sur l'acteur américain Pardonnez-moi Marc-Antoine Al-Mazega, parce que ces dernières semaines, il y a un certain nombre de médias qui ont évoqué de possibles sanctions américaines à l'encontre d'entreprises européennes destinées justement à stopper ou à ralentir encore Nord Stream 2. En l'occurrence, il s'agit du journal allemand Bild, qui a évoqué des mesures à l'encontre notamment de la société Uniper, qui est une société allemande, des mesures qui pourraient intervenir avant Noël, justement destinées probablement à mettre à mal aussi ces discussions sur ce projet. Un contrat. Est-ce que c'est un scénario possible? Est-ce que, oui, on pourra avoir depuis Washington une décision visant à punir des entreprises européennes qui ont investi dans ce domaine-là?
Alors, depuis août 2017, le Congrès américain, il y a au Congrès un consensus bipartisan pour préparer des sanctions qui visent le secteur énergétique russe et en particulier le projet Nord Stream 2.
Là, c'est européen, là. Uniper, c'est une société allemande.
Une société, absolument. Alors, il y a eu différents projets législatifs qui ont été préparés. Pour l'instant, aucun n'a été voté par les deux chambres.
Mais les projets sont là, sont sous le coude.
Les projets sont sous le coude et ces projets allaient un peu dans tous les sens. Alors, on allait de sanctionner toutes les entreprises européennes, d'aller empêcher Gazprom de vendre du gaz en Europe, à, en réalité, c'est ça l'enjeu dorénavant, empêcher en réalité les sociétés de pose. Donc c'est des gros bateaux qui posent les gazoducs sous l'eau. Il y en a peut-être 5 dans le monde qui sont capables de faire ça. Et c'est précisément d'aller empêcher cette société-là d'aller finir en réalité la construction et la pose du tube. Et il s'agira pas d'aller sanctionner Uniper, Engie, Shell, etc. Mais plutôt ce segment. Maintenant la question, c'est la suivante, c'est est-ce que ces sanctions, un, seront votées, parce que pour l'instant on n'est jamais passé en réalité au vote dans les deux chambres. Et deux, si elles sont votées, est-ce que leur mise en œuvre par des directives du département du Trésor arrivera à temps et est-ce qu'en réalité le tube ne sera pas déjà terminé à ce moment-là?
Allez, peut-être une dernière intervention, Boris Nagyman, avant de retrouver Alain Guillemol et de quitter un peu nos tuyaux et nos gaz pour parler d'agriculture, parce que c'est un autre secteur extrêmement important pour l'Ukraine. Boris Nagyman.
Oui, je vous entends.
Sur la question donc des sanctions possibles venant des États-Unis, un mot à rajouter?
Oui, enfin c'est compliqué avec l'administration américaine à l'heure actuelle et je peux être que d'accord. Fiona Hill a fait une intervention extrêmement importante et fantastique. Hein, ça a été de rappeler que en fait ce n'est pas l'Ukraine qui s'est ingérée dans les élections américaines, que c'est bien une intervention russe qui a déstabilisé la campagne de 2016 et qui a déstabilisé en fait le pays et l'état de droit dans d'autres situations. On l'a connu aussi en France en 2017. Donc on est dans un dossier où en ce moment on ne sait pas, hein, parce qu'il y a la procédure d'impeachment, on ne sait pas si peut y avoir des votes à la fois du Parti républicain et du Parti démocrate sur des dossiers aussi sensibles que ceux d'énergie. Mmh. C'est compliqué, hein, de le dire, parce que En fait, la tension est telle, hein, sur la procédure qui est à l'heure actuelle, qu'il est, difficile de savoir si les deux parties peuvent se mettre d'accord pour voter des résolutions. À mon avis, elles sont nécessaires parce que effectivement, on est dans une situation où on ne doit pas avancer si vite sur Nord Stream 2. On doit beaucoup plus réfléchir sur les conséquences que ça. Mais c'est impossible de le prévoir. Effectivement, l'administration américaine aujourd'hui est beaucoup trop faible elle est dans un total désengagement en Europe qui fait que c'est impossible de prévoir ce qu'elle va faire.
On est avec vous, Boris Nachman, et vous, Marc-Antoine Heil-Masséga, autour de cette série consacrée à l'Ukraine et en particulier à son économie aujourd'hui, le gaz et après. On va parler justement de l'agriculture. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Parce qu'en dehors de son importance sur le marché du gaz, l'Ukraine représente aussi une réelle puissance agricole avec des terres réputées comme étant les plus fertiles du monde, le grenier à blé de l'URSS durant la période soviétique, comme le rappelle d'ailleurs la couleur jaune du drapeau ukrainien. Le jaune, c'est le jaune du blé, le bleu, c'est le bleu du ciel. L'agriculture représente une part très importante de son économie. Et aujourd'hui, le nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky, espère tirer encore davantage profit des terres agricoles en autorisant leur vente à des acteurs étrangers, une perspective qui inquiète les agriculteurs.
Je suis venu lutter contre la vente de terrain. Je veux que notre président, Volodymyr Zelensky, nous entende. Les résidents ruraux et les gens ordinaires ne veulent pas que la terre soit vendue.
S'il commence à vendre les terres ukrainiennes, il n'y aura plus d'Ukrainiens. Il y aura des Américains, des Chinois, des Russes et ceux qui sont prêts à les acheter. C'est pourquoi nous avons demandé au président d'interdire la vente de terrain.
Voilà, fin octobre, 2000 Ukrainiens, essentiellement des fermiers, manifestaient à Kiev contre ce projet des autorités. Bonjour Alain Guillemolle.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste à La Croix et vous êtes auteur notamment d'un livre qui était paru l'année dernière, Ukraine, le réveil d'une nation, aux éditions des Petits Matins. Ce gouvernement de Volodymyr Zelensky, il prépare donc une réforme du marché des terres agricoles. C'est un sujet, on l'entendait à l'instant, qui préoccupe beaucoup les agriculteurs, mais en réalité dont on parle beaucoup dans l'ensemble de la société ukrainienne. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots, Alain Guillemolle, le contenu de ce projet et ses conséquences possibles, Alain Guillemolle?
Oui, alors le contenu de ce projet, vous l'avez dit, enfin, il s'agit de créer un marché du foncier, qui est un marché qui n'existe pas, puisqu'aujourd'hui, il n'est pas possible d'acheter de la terre. Hein, depuis 2001, il y a un moratoire sur les achats. Et donc, c'est vrai que c'est un projet qui est très controversé. Il faut peut-être dire que le secteur de l'agriculture, alors en Ukraine, effectivement, c'est déjà très important, c'est 10% du PIB et donc une tranche importante de l'économie.
Et beaucoup d'emplois, beaucoup d'emplois.
Beaucoup d'emplois, mais en même temps, c'est un secteur qui a un gros potentiel. Hein, l'Ukraine est un gros joueur, on peut dire, sur le marché du blé. C'est aussi le troisième exportateur mondial de colza. C'est aussi le premier exportateur mondial d'huile de tournesol. C'est un gros exportateur aussi de grains, etc.
Ils ont un coup à jouer, c'est ça que vous voulez nous dire. Ils ont un coup à jouer, c'est ça que vous voulez nous dire.
Oui. C'est-à-dire, c'est ça que je voulais vous dire. Oui, ils sont importants, mais ils ont un potentiel pour développer ce secteur agricole et pour le rendre encore plus important. Ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils sont très forts sur un certain nombre de productions, mais en même temps, c'est un secteur qui est dual, c'est-à-dire qui est dominé par un certain nombre de grandes fermes qui sont héritées des kolkhozes de l'époque soviétique. Il y a quelques-uns qui sont restés dans leur dimension originelle, voire se sont agrandis. Il y a des fermes. Je crois que la plus grande fait 600 000 hectares. Vous voyez, c'est quand même très, très impressionnant. Mais par contre, il y a aussi énormément de petites productions et de fermes qui font moins de 4 hectares et qui sont à la limite des productions vivrières. Et donc tout ce qui est fruits, tout ce qui est même produits laitiers vient plutôt de ces petites productions. Et donc en fait,
et elles risquent de disparaître avec cette réforme.
Alors celles-là sont évidemment, c'est celles-là qui se braquent et c'est pour ça que cette réforme est très controversée, parce qu'y compris dans le monde agricole, ça divise les agriculteurs. C'est-à-dire, un des problèmes de l'agriculture ukrainienne, c'est le financement. Aujourd'hui, donc, je vous disais, il y a un gros potentiel, mais les fermes ont du mal à se financer, à trouver des capitaux, et avec la création d'un marché foncier, elles auraient la possibilité de gager leurs terres pour obtenir des crédits, et donc se financer et se développer encore plus. Donc, ça peut potentiellement profiter aux grosses fermes, mais en même temps, comme le disait la personne qu'on entendait dans votre reportage juste avant...
Reportage AFP, je l'indique.
Ah d'accord, ouais. Il y a la crainte que ce soit aussi l'arrivée d'étrangers qui viennent acheter des terres. Alors la personne citait les Américains, mais c'est aussi les Chinois qui pourraient être potentiellement intéressés.
Et les Russes?
Alors les Russes, je pense que ça sera beaucoup plus compliqué dans le contexte actuel, parce que les relations bilatérales sont quasiment, enfin du point de vue économique, sont quasiment à l'arrêt.
Oui, bien sûr, mais est-ce qu'on irait jusqu'à, dans le projet, interdire des achats de terres arabes par des acteurs russes?
Alors, pour l'instant, ce que dit le président ukrainien, c'est il pousse ce projet, hein, qui n'est pas d'ailleurs le sien. C'est une question qui est en discussion en Ukraine depuis une bonne dizaine d'années. Mais lui, s'appuyant sur une forte majorité qu'il a actuellement au Parlement, a décidé de faire passer cette réforme, ce qui est un risque politique, parce que d'ailleurs, sa popularité en a pris un coup, et c'est une des raisons qu'il explique. Hein. Il était à 73%, il est tombé à 52% en quelques jours. Là. Mais donc, il a pris le risque politique de passer cette réforme, mais il dit en même temps, je ferai un référendum, je reviendrai vers le peuple, qui décidera. Et pour l'instant, on est encore loin de savoir si les Russes pourraient être autorisés à le faire. Alors après, de toute façon, on peut imaginer que si des acheteurs russes veulent se présenter sur le marché, ils peuvent le faire à travers des sociétés qui sont basées à Chypre ou ailleurs.
Oui, bien sûr.
C'est possible.
Mais alors attendez, parce que vous avez parlé de référendum. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'en réalité ce projet n'aboutira que si le peuple vote pour ? Il va être vraiment ce projet-là soumis à référendum ? Et le cas échéant, que pense la société ukrainienne de cette réforme ?
Alors, les achats de terres par les étrangers vont être soumis à référendum, oui, c'est ce qu'a annoncé...
Donc c'est l'opinion qui va trancher. Que dit l'opinion aujourd'hui ?
Alors, l'opinion, je pense que c'est assez difficile de le dire encore, parce que c'est tout récent, hein, c'est dans les derniers jours. Donc, on verra bien. Vous savez, le cours de la politique ukrainienne est un peu imprévisible, alors donc, je ne prendrai pas le risque de vous annoncer déjà le résultat du référendum.
Bon, alors, puisqu'on c'est vrai que c'est toujours difficile le futur, regardons le passé. Bien que le passé, c'est aussi souvent très difficile, Alain Guillemot. En tout cas, à la suite de la révolution de 2014, il se trouve que l'Ukraine avait mis en place un accord d'association avec l'Europe. Qu'est-ce que ça prévoyait en particulier en matière agricole et quels ont été les effets ?
Ah oui, alors ça c'est effectivement très très intéressant, parce que donc cet accord d'association, c'était un accord politique, mais en fait le cœur de l'accord, c'était d'associer l'Ukraine à l'Union européenne, et donc de lui ouvrir les marchés et donc de faire baisser les barrières douanières. Et ça a eu un effet assez fort, assez net, avec le bon des exportations de produits agricoles vers l'Union européenne. Le secteur agroalimentaire est celui qui a le plus profiter de l'ouverture vers les marchés européens. Alors c'est d'autant plus intéressant qu'au même moment, l'Ukraine se trouvait donc dans une période de tension avec la Russie, que les marchés russes sont fermés. Et donc en fait, ce qu'on peut voir dans le secteur de l'agriculture, mais qu'on peut généraliser au reste de l'économie ukrainienne, c'est que ce secteur de l'agriculture est un peu symbolique du pivot qu'a fait l'économie ukrainienne. C'est-à-dire elle était... En gros, c'était un pays qui exportait un tiers de ses marchandises vers l'Europe, un tiers vers la Russie et puis un tiers vers le reste du monde. Hein. Ça, c'était avant la Révolution. Aujourd'hui, on est à 40-45% vers l'Europe, là, tout confondu. Hein. Et les exportations vers la Russie sont tombées à 8%. Et donc, vous voyez, l'Ukraine, en quelque sorte, c'est arrimé vers l'Europe, vers les marchés européens. Mmh,
mmh. Alors attendez, juste une seconde, parce que ça, c'est évidemment une nouvelle dont on se réjouit, Alain Guimol, quand on pense à l'intérêt des Ukrainiens. Mais si on se penche sur l'intérêt des Européens, est-ce que ce pivot que vous décrivez vers l'Ouest, ce pivot vers l'Europe réalisé par l'Ukraine, est-ce qu'il ne s'est pas aussi un peu fait aux dépens de certains membres de l'Union européenne? Par exemple, dans le domaine agricole.
Écoutez, dans le domaine agricole, bien sûr, il y a des inquiétudes du côté des grands céréaliers français qui voient arriver avec... mais en même temps, ce sont les mêmes aussi qui pourront peut-être demain investir pour louer des terres ou acheter des terres en Ukraine. Enfin, de toute façon, cette ouverture vers l'Ukraine s'est faite d'une façon qui était contrôlée, c'est-à-dire c'était...
Vers l'Europe. Ouverture vers l'Europe.
Cette ouverture vers l'Europe, c'était voulu par... vous voyez, ça s'est fait dans le cadre d'une négociation entre Bruxelles et l'Ukraine. Et donc, l'abaissement des barrières douanières se fait d'une manière progressive, avec des quotas qui, petit à petit, deviennent de plus en plus importants. Donc, c'est une politique qui est maîtrisée. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui se fait d'une manière sauvage. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est aussi que... Donc, je disais, l'Ukraine a un gros potentiel dans le domaine agricole, un potentiel qui est loin d'être encore réalisé. Les rendements à l'hectare... en Ukraine, dans la production de blé, sont trois fois moindres que ceux qu'on a en France. Alors c'est vrai que le coût de la main-d'œuvre y est moindre, et etc. Mais il y a encore, en Ukraine, il y a encore, pour développer l'agriculture ukrainienne, il y a des besoins d'investissement qui sont énormes. Mmh. Et donc je pense que, il me semble que les céréaliers français n'ont pas vraiment à s'inquiéter encore de cette concurrence-là. Mais bien sûr, c'est un gros
concurrent. Il n'empêche qu'il s'inquiète.
Pourrait venir d'ici 10 à 15 ans. Bien évidemment.
Il n'empêche que les céréaliers français, effectivement, ils s'inquiètent de cette situation. Alain Guimol, vous restez avec nous, mais je voudrais peut-être passer la parole un instant à Boris Nagyman pour évoquer un autre secteur qu'on n'évoque pas forcément, auquel on pense pas forcément quand on parle de l'économie ukrainienne, et pourtant on devrait, c'est le tourisme, parce que pendant longtemps, l'Ukraine a été quand même un pôle touristique absolument majeur en Europe. En 2012, avant... le rattachement de la Crimée, l'Ukraine, c'était la 8e destination la plus populaire des touristes en Europe. C'est un secteur qui représentait 2-3% du PIB, où il y avait 350 000 emplois directs. Est-ce que, Boris Nagyman, ce tourisme, c'est un secteur que Zelensky et son gouvernement ambitionnent de faire revivre?
Oui, enfin, il y a beaucoup.
Ou est-ce que c'est pas l'heure?
Non, c'est l'heure. Il y a beaucoup de possibilités, à la fois dans les Carpates, à la fois dans l'intérieur ou sur le delta du Danube, sur le côté ukrainien qui est magnifique, ou sur la mer Noire. Il y a beaucoup de possibilités de tourisme rural aussi, développement d'un écotourisme très fort en Ukraine qui serait très fort. Il manque en fait des microfinancements plus que de gros financements. Il manque de petits financements qui permettent de développer de petites structures et des petites... Parce que l'économie ukrainienne, elle repart comme beaucoup d'économies avec des PME, avec des petites choses, plutôt que chercher des très gros investissements comme ceux qui avaient été faits pour faire le lien avec notre sujet d'avant sur l'énergie. L'Ukraine a besoin d'une multitude de projets, donc presque du microcrédit un peu... plus fort hein, quand même, des prêts autour de 100 000 euros, des choses comme ça, 100 000 à 1 million, qui permettent de développer de petites activités, notamment dans le milieu rural, où il y a une beauté incroyable, hein, dans des zones où effectivement il y a des villages, des zones, mais qu'il faut certainement pas détruire, mais plutôt mettre en valeur et trouver de petits investissements pour qu'il y ait du logement, d'accueil de tourisme. Et c'est vrai que l'Ukraine a un potentiel énorme. Je dirais, juste pour faire le lien avec l'agriculture et l'Europe, la force en fait de l'Ukraine, c'est aussi le fait qu'elle a un très très grand nombre de gens qui sont extrêmement bien formés, qui ont une éducation exceptionnelle. Hein. Nous, on en reçoit dans mon université grâce au programme Erasmus+ qu'on a, et on est tous les jours, enfin toutes les années où les étudiants viennent, étonnés du niveau de compétence, un niveau en économie, en statistique, mais aussi en langue. Et je pense que dans le tourisme, c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de gens bien formés, puisqu'on peut créer une valeur ajoutée très importante. L'Ukraine doit sortir d'un développement qui est fondé sur des matières première, je dirais, vers un développement où il y a une valeur ajoutée importante, et c'est dans le tourisme où on peut le faire. Mmh. Et c'est là qu'elle peut effectivement faire décoller son économie.
Mmh. Faut-il et encore avoir des moyens pour le faire, voilà. Des moyens financiers. Et évidemment, les marges de manœuvre sont assez faibles aujourd'hui. Marc-Antoine Almazega, peut-être une dernière action, dernier tour de table avant de clore.
Oui, je crois que Il est très clair que on est à un tournant en Ukraine. Ça a été dit, c'était une économie très dépendante du gaz, de l'exportation de produits métallurgiques, de pétrochimie. Tout cela doit évoluer, a déjà commencé à évoluer. La consommation de gaz du pays a été divisée par 2 en 7 ans. C'est absolument considérable. On voit ça très rarement. Et donc, les évolutions dans le bon sens vont dans le bon sens. Le marché commence à s'européaniser, à se libéraliser. Les prix sont désormais des prix de marché, notamment pour le gaz. Il y avait pendant très longtemps une économie de la subvention, de la rente et donc de la corruption, etc. Tout cela est en train d'être complètement arrêté. Il y a de nouvelles opportunités, cela a été évoqué, le secteur agraire, le secteur touristique, notamment le ciel aérien s'ouvre. Et vous avez toutes les compagnies low cost qui commencent à desservir l'Ukraine. Il n'y a plus besoin de visa dans les deux sens, c'est évidemment un immense appel d'air. Il y a le secteur des nouvelles technologies, il y a le secteur de la transformation agricole aussi qui est en train de prendre son essor. Et puis, dans le domaine des énergies renouvelables, il y a là aussi un potentiel très important, et l'Ukraine est l'un des grands pays qui déploie notamment le solaire et l'éolien actuellement en Europe.
Alain Guimond ne nous dira pas autre chose pour quelqu'un qui a vécu en Ukraine et qui vient de signer Ukraine, le réveil du nation. Alain Guimond, je vous laisse le mot de la fin.
Oui, tout à fait. Enfin, j'apprécie ce qu'a dit Antoine Almazega sur le fait que l'Ukraine commence à produire des produits transformés. L'un des problèmes de l'Ukraine, c'est qu'elle ne vend à l'exportation que des produits de base et donc ne valorise pas beaucoup sa production. Mais petit à petit, on voit maintenant, quand on va dans les magasins en Ukraine, on voit des paquets de biscuits, des produits, des bonbons. C'est d'ailleurs un fabricant de bonbons qui était l'ancien président, Petro Poroshenko. On voit
le roi du chocolat.
Le roi du chocolat, voilà, on voit des fromages, on voit enfin quantité de nouvelles productions qui peut-être un jour arriveront jusqu'à chez nous.
Ce groupe ukrainien Dak Daughters, on mettra les références de ce morceau sur la page de Culture Monde. Un grand merci à Alain Guimond qui était avec nous par téléphone à l'instant, et je conseille vraiment aux auditeurs son dernier ouvrage Ukraine, le réveil du nation, qui était paru aux éditions des Petits Matins. Un grand merci également à Boris Najman qui était avec nous par téléphone de Bruxelles. Un grand merci à vous, Marc-Antoine Almazega. On poursuivra nos pérégrinations autour de l'Ukraine demain, et on va rentrer dans ce qui occupe beaucoup l'actualité quand on parle de l'Ukraine, c'est évidemment les négociations avec la Russie. Sur l'Est, sur le Donbass, la Crimée, etc., etc., puisqu'il y a un sommet qui s'ouvrira, ce sera le 9 décembre, mais ça sera pour demain. Pour l'heure, presque 11h53, c'est l'heure de retrouver Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors Brice, il y a des générations qui ont de la chance et d'autres qui en ont un peu moins.
Eh oui. Et dans un de ses fameux discours appelant ses concitoyens à se battre avec courage lors de la Deuxième Guerre mondiale, le président américain Franklin Roosevelt a dit « Il existe un cycle mystérieux dans le déroulement de l'histoire. À certaines générations, beaucoup est donné. De certaines générations, beaucoup est attendu. » La génération du baby-boom a été l'une des plus gâtées de l'histoire. Pas seulement aux États-Unis. Elle a bénéficié d'une croissance exceptionnelle, du plein emploi favorisant les ascensions sociales rapides, d'avancées technologiques prodigieuses dans un monde qui ignorait alors la rareté et les limitations. Elle s'est battue pour conquérir des libertés nouvelles et elle les a obtenues. Les générations suivantes ont le sentiment que pour elles, les choses sont nettement moins faciles. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, comme l'écrivent dans le mensuel The Atlantic, le fameux historien Niall Ferguson et l'analyste politique Ike Freeman, les clivages de classe et de race qui ont été déterminants dans la vie politique américaine tendent à présent à faire place à un clivage générationnel. Première constatation, l'âge médian aux États-Unis est de 38 ans. Or, les figures emblématiques de la vie politique y sont âgées. Le président Trump a 73 ans. La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a 79 ans. Mitch McConnell, le leader républicain au Sénat, 77. Bernie Sanders, le leader de la gauche démocrate, 78 ans. Ces trois derniers relèvent d'ailleurs de la Silent Generation, celle qui a connu la Deuxième Guerre mondiale. Prenez maintenant Alexandria Ocasio-Cortez, 30 ans. Elle vient d'être élue à la Chambre des représentants, elle se réclame du socialisme. Certains dirigeants démocrates la jugent trop radicale. En réalité, selon Ferguson et Freeman, elle est simplement en phase avec sa génération. Le socialisme a le vent en poupe chez les Américains de moins de 30 ans. Sous leur influence, le Parti démocrate glisse vers la gauche. Non seulement la génération Z, à laquelle appartiennent les personnes nées depuis 1996, est très radicale, mais leurs aînés, les millennials, penchent eux-mêmes de plus en plus vers la gauche. Les jeunes, par exemple, sont massivement hostiles à Trump. 85% des moins de 30 ans sont opposés à la construction d'un mur sur la frontière avec le Mexique.
Donc, comme Brice, en gros, aux États-Unis, les jeunes sont de gauche et les vieux plutôt de droite. Mais on pourrait se demander pourquoi.
Un retour à Roosevelt pour expliquer. Et à sa citation sur les générations qui ont beaucoup reçu et celles qui n'ont pas eu toutes les chances. Les moins de 40 ans partent dans la vie aux États-Unis avec des handicaps que n'ont pas eu à affronter leurs aînés. Leurs dettes sont dites toxiques. Ils traîneront durant une grande partie de leur carrière professionnelle les emprunts destinés à payer leurs études. Les quarantenaires américains aussi sont endettés, vous me direz, mais leurs dettes, à eux, sont des crédits hypothécaires destinés à finir de payer l'achat de leur logement. Mais c'est surtout la répartition et l'évolution des revenus qui explique la grande colère des millennials et celle des zoomers, la génération Z. Le revenu médian des baby boomers s'est envolé depuis 1989, alors que celui de toutes les générations plus jeunes a plongé à partir de 2008. Et ce sont les Américains âgés de 35 à 44 ans qui ont le plus pâti de la crise. Pour des raisons donc de simple démographie, les vieux ayant une fâcheuse tendance à disparaître, les républicains ont du souci à se faire. Selon nos deux auteurs, la seule chose qui pourrait empêcher un véritable raz-de-marée démocrate dans les élections de la prochaine décennie serait la faible participation des jeunes. Or, c'est déjà le cas. Le taux de participation des électeurs de plus de 45 ans est élevé, entre 65 et 75% vote. Celui des moins de 35 ans est faible. Autre problème, pour les démocrates, les jeunes ont pris l'habitude de s'organiser hors des partis politiques pour des causes spécifiques comme le climat ou leurs identités. Ainsi, la Marche pour nos vies, organisée par des étudiants suite à la tuerie de Parkland en Floride, a rassemblé plus de 2 millions de personnes dans les rues. Les jeunes sont particulièrement sensibles à la limitation de la détention des armes à feu. En fait, la seule chance pour les républicains de résister aux vagues de fond démocrates qui s'annoncent serait, selon Niall Ferguson et Ike Freeman, d'obtenir une forte majorité chez les baby-boomers. Mais relève-t-il les thèmes qu'a choisi Trump en vue de sa réélection, comme la lutte contre l'immigration, la dénonciation du socialisme, s'adressent en réalité à la Silent Generation, guerre aux baby-boomers. Le ciblage est donc mauvais. Les républicains feraient mieux de faire campagne contre le politiquement correct. Car si les moins de 30 ans y adhèrent massivement, leurs aînés le trouvent dorénavant exagéré. En particulier les baby-boomers, aux yeux desquels la liberté de parole, parce qu'ils l'ont conquise, demeure inestimable.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve demain et dans un court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.